Courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonnaissance.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour toutes les auditrices et auditeurs de Calade Ma Radio. Bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Au sommaire de notre émission aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter Agnès Secaldi.
Bonjour.
Bonjour Agnès.
Bonjour.
Designeuse graphique, dessinatrice de BD et raconteuse de vie. C'est comme ça que je me représente
ce que je fais.
Ce que tu es et ce que tu fais.
Mm-hmm. C'est très juste.
Et du coup, j'ai qu'une envie, c'est que tu nous racontes ton parcours.
Alors, mon parcours, c'est un parcours qui est extrêmement ouvert aux arts depuis toute petite. Je me souviens d'une enfance qui était vraiment baignée par ça, par la musique et la littérature globalement, et que mes premières émotions viennent de là, principalement de la musique et de la pratique du dessin de manière très très libre, et qui me procurait une émotion toujours saine et très agréable.
Tu regardais Dorothée ? Non, pas, pardon, ça c'est moi ça.
Absolument pas. J'avais pas la télé en fait.
Okay. Non, parce que moi, je me pose la question de quel type de musique tu parles.
Bah, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que j'avais beaucoup de CD de mes parents. Et en fait, je pense que ma culture musicale, elle est extrêmement vaste parce que ça allait de Brel, Barbara, Brassens à des musiques du monde de ma maman qu'elle adorait. Tout style de musique, un peu jazz, etc. Et en fait, je pense que ça m'a vraiment portée. Et plus tard, du coup, comme j'ai deux grands frères qui adoraient le rock, j'ai Nirvana, évidemment, les Red Hot qui ont porté toute mon adolescence. Donc, du coup, j'arrive quand même à l'âge adulte avec un panel assez large, sauf que je connaissais aucune des chansons qui passaient à la radio, quoi. Voilà, j'étais un peu à part.
Dans ta bulle.
Ouais, dans une bulle super, mais complètement déconnectée, quoi. Voilà. Ça, c'est mon parcours d'enfance. Et je pense que j'ai réalisé beaucoup plus tard que j'avais quand même une vie très, très privilégiée, parce que j'ai eu accès à énormément de choses très jeune. Et qu'en grandissant, qu'en rencontrant d'autres gens, d'autres cultures, d'autres parcours, on se rend rapidement compte que ça n'a pas été le cas de tout le monde, et que c'est une vraie chance. Et donc, ça m'a amenée dans mon parcours scolaire à aller vers ça, quoi, vers le théâtre, la littérature, faire un bac L au lieu d'un bac S, qui était globalement ma voie, et à réaliser que le dessin était mon
voie d'expression.
Exactement, que j'avais absolument pas besoin de contraintes pour dessiner. Et que ça venait de manière très naturelle, que c'était le seul moment où je n'avais pas l'impression qu'on me demandait de faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Mmh. Et que vers une vingtaine d'années, j'ai réalisé qu'on pouvait en faire son métier, alors qu'avant, ce n'était pas inscrit dans ma tête. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers des écoles d'art.
Et alors ?
Et alors, les écoles d'art, c'est un grand, grand moment de bonheur ou pas, mais en tout cas, c'était... C'était un parcours obligé. Je pense vraiment pour moi, ça m'a structuré, ça m'a fait du bien d'apprendre le dessin de manière très académique. Après coup, c'est quelque chose qui a été quand même très douloureux parce que c'est beaucoup beaucoup d'heures de travail, très peu d'heures de sommeil et beaucoup de recherche de soi en fait. Donc ça m'a presque un peu dégoûtée du dessin à un moment donné quand même.
Mais t'as fait style une école des beaux-arts ou...
J'ai fait Émile Cole, c'est une école à Lyon, assez réputée, assez connue finalement, ouais. Sur le bassin lyonnais. Ça je l'ai découvert après parce qu'au départ je pensais que c'était une école comme les autres. Et puis en fait je me suis rendu compte de la renommée de cette école, qui est plutôt chouette sur un CV parce que c'est vrai que ça ouvre des portes quand même. Voilà.
En t'écoutant, je me disais, mais c'est en fait comme en classe prépa. Et ça déconstruit quelque part cette image qu'on a des artistes en se disant « Ah, ils se la coulent douce et tout
!» Même les étudiants des Beaux-Arts que j'ai rencontrés, on ne peut pas dire qu'ils se la coulent douce. C'est vraiment... moi, je sais que j'avais 39 heures de cours par semaine et quasiment autant de travail à côté. Mmh. Et quand on sort... Alors moi, je ne sortais pas du lycée parce que j'avais un peu fait des trucs à droite et à gauche avant d'arriver là, mais... Mais c'est très contraignant, c'est un rythme énorme. Et c'est vrai que j'avais des copains, effectivement, dans des écoles d'ingénieurs ou des prépas.
Le regard qui tue.
Qui nous regardaient un peu de haut avec un petit air de snobisme. Et en fait, quand ils réalisaient ce qu'on faisait, c'était... Il y avait quand même un petit... Voilà, on se redorait un peu au niveau du blason. Ouais.
Et tu disais aussi que ça nécessitait beaucoup de connaissances de toi.
Ouais.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Très bonne question. C'est
pour trouver ton art, ce que tu voulais véhiculer.
Il y a ça. Il y a quand même déconstruire une part d'ego aussi quand on arrive dans ces écoles-là, parce que on vient tous d'un milieu. Enfin, en tout cas, tous ceux qui arrivent dans ces écoles-là ont un petit niveau de dessin quand même. Et dans nos familles, on a l'impression qu'on dessine merveilleusement bien et qu'on est les meilleurs.
Ah, ok.
Et en fait, quand on arrive là-bas, on se prend des énormes tôles tout de suite. On prend des 5 sur 20 en nous disant que c'est bien, c'est la moyenne. Et on comprend que le chemin va être long, quoi. Ça ne va pas se faire en 2 heures.
C'est drôle parce que premier partiel en fac d'économie,
ouais.
On a eu une moyenne générale de 3 sur 20. À la fois, on nous disait qu'on était pas les futurs Einstein, parce qu'il ne faut pas délirer, mais qu'il y avait quand même un certain discours un peu élitiste, et en même temps, et on était 700 quand on a démarré l'année. On a fini à 400 assez rapidement.
C'est un peu ça qui m'a marqué très rapidement sur l'arrivée dans cette école, c'est que le discours d'entrée, c'était vous allez être l'élite du dessin, et globalement, 50% d'entre vous n'iront pas au bout, et il y aura quelques élus qui auront la chance d'en faire leur métier, quoi.
Bienvenue dans les études supérieures voilà. Et le monde réel, entre guillemets.
Exactement. Ça fait un peu mal d'entendre ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a tout de suite braqué, parce qu'en fait, ce discours élitiste qu'on tient beaucoup dans les écoles d'art, je trouve, peut dégoûter beaucoup de gens qui étaient extrêmement doués au départ. Et j'ai un bon nombre d'amis qui ont raté le dessin depuis la fin des études. Ce qui est quand même assez incroyable. Voilà.
Oui.
Et je trouve ça très dommage. Ce qui m'en amène à à mes envies actuelles. Et je pense que ça a été un point de bascule, justement, parce que j'ai adoré dessiner, j'ai adoré apprendre à dessiner, mais j'ai détesté la manière dont on nous l'a martelé, parce qu'il y avait cette recherche de la perfection absolue. Et c'est la période, par exemple, où j'ai commencé à déchirer des dessins parce que je trouvais que c'était pas assez bien et que j'étais dans une autocensure extrême. Mmh. Et en fait, ça, à déconstruire, ça a mis beaucoup de temps. Et même encore maintenant, je pense que je m'autorise rarement à faire du dessin automatique, alors qu'en fait, c'est ça la clé, quoi. Et je pense que c'est là-dessus que ça réside chez beaucoup de gens, cette envie de dessiner. Et qui s'auto-censure parce que pas assez parfait, pas assez bien proportionné, pas assez joli, pas assez pas dans la bonne perspective, etc. Et je pense que
c'est qu'il faut lâcher en fait notre geste automatique.
Exactement.
Comme quand on chante en fait quelque part.
Exactement.
Qu'on laisse venir et puis après on verra si c'est si ça reste, j'allais dire sous la douche, mais non, ça ne marche pas, le dessin sous la douche.
Pas encore. Mais il y a des choses qui viennent sous la douche.
Comment tu continues ton parcours, du coup ? Qu'est-ce que tu fais de tout ça ?
Qu'est-ce que je fais de tout ça ? En fait, quand je termine mes études, j'ai une chance. Alors, ce n'est pas forcément de la chance, certes, mais ça reste une part de chance à ce moment-là pour moi. C'est que je trouve un CDI avant de passer mon diplôme. Donc, je vais un peu à ma soutenance de diplôme, le cœur beaucoup plus léger, en me disant, au pire, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Et je rentre dans le monde de la communication visuelle, dans une agence à Lyon, qui m'a fait confiance, déjà, parce que je sortais d'études, et que c'est là où aussi on se rend compte qu'on a eu beau taffer des heures, on ne connaît pas grand-chose, et qu'il va falloir apprendre sur le tas, quoi. J'étais dans une super équipe et ça s'est vraiment super bien passé pendant de nombreuses années. Et le deuxième point de bascule, je pense que ça a été à la naissance de mon deuxième enfant, parce que j'ai eu deux enfants sur cette période-là. Et où il y a eu effectivement l'enchaînement du Covid, perte de sens dans mon travail, énorme fatigue globale, parce que l'arrivée d'enfants, c'est pas anodin. Et je pense que je les avais un peu traités comme... OK, c'est normal d'avoir des enfants, on change rien dans notre vie, on reste à temps plein, on travaille d'arrache-pied. Et ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça, la vie. Voilà, donc ce point de bascule m'a amené à un bon burn-out. Dépression postpartum, etc. Et là, quand c'est le Covid, quand c'est le confinement et qu'on a deux enfants, il faut pas trop lâcher non plus, quoi. On n'a pas trop le droit de lâcher complètement. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé mentale. La santé mentale, qu'est-ce que c'est ? Et en quoi ça m'impacte ? Et en quoi c'est important de la travailler ? En quoi c'est important de réfléchir à ça et de la mettre au cœur de nos vies, finalement ? Parce que jusqu'à présent, je pense que j'ai été bercée aussi par des générations de femmes fortes qui prennent tout... qui prennent tout comme une mission et comme un... Comment dire ? Qu'il faut tout faire avec énormément de force et réussir absolument tout dans la vie, quoi. Voilà.
Wonder Woman.
Oh, les Wonder Woman, voilà. Que j'ai encore, hein, que j'ai du mal à déconstruire complètement, mais je pense que j'ai appris à lâcher certaines choses, quand même. Voilà, ce point de bascule, effectivement, ça m'a amenée à la santé mentale. Et à ce moment-là, c'est le dessin qui m'a fait le plus grand bien. De revenir au dessin, en fait. De revenir dessiner de manière automatique, de me laisser porter. Et c'est là que je retrouvais, effectivement, ces sensations d'enfance où je disais... Enfin, c'était un retour qu'on me faisait souvent quand j'étais petite. C'était quand je me mettais à dessiner, je devenais un peu autiste. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a une manière d'entendre et de ressentir ce qui se passe autour de moi de manière complètement différente. Par contre, je suis extrêmement présente à ce que je fais.
Alors, ce n'est pas de l'autisme, c'est d'être dans le flow.
Voilà, exactement. Ça, je l'ai appris après, le flow. Et effectivement, ça traduit exactement ce qui se passe quand je le fais. Et c'était les seuls moments où je me sentais beaucoup plus légère. Parce que c'est quotidien en burn-out, c'est énormément de lourdeur et de fatigue à faire la moindre petite chose, alors que le dessin, finalement, c'est ça qui m'a porté. Et c'est ça qui m'a amené à me dire, il y a une clé là-dedans, il y a un truc à faire. Il y a un truc à partager, en tout cas. Et à amener aux autres. Donc, c'est ça qui m'a porté un peu sur ces dernières années, dans mon travail, déjà, dans me dire qu'est-ce que j'ai envie de développer par ça, où est-ce que j'ai envie d'aller, professionnellement, déjà, et dans les rencontres que je peux faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le monde de la recherche.
C'est pas si évident, le lien comme ça, là.
C'est pas évident.
Faut que tu nous expliques.
C'est vrai que c'est pas évident. Je pense que ça, c'est venu questionner quand même beaucoup mes envies d'engagement, mes valeurs, beaucoup plus tournées vers l'humain, finalement, que ce que je faisais jusqu'à présent, qui était du coup beaucoup commercial, finalement. Dans la communication visuelle, on vend des produits, on vend des concepts, on vend des choses assez vagues, assez floues. Et moi, j'avais besoin de recentrer sur être au service des autres, faire du lien avec l'humain, le collectif.
Et tu fais quoi alors ?
Et je fais quoi alors ? Eh bien, j'ai commencé à dessiner pour beaucoup en bénévole, pour tout type de gens qui avaient besoin de visuels, qui avaient besoin de dessins dans leur métier, en fait. J'ai commencé petit à petit à me créer un réseau de cette manière-là. Mmh. Et j'ai rencontré une directrice de recherche qui travaille au Centre Léon Bérard et qui a une association qui regroupe à peu près 600 personnes dans un réseau national entre des chercheurs, des familles d'anciens patients.
Tu peux donner le nom, hein.
Je peux donner le nom, c'est 2500 voix.
2500 voix.
2500 voix parce que c'est 2500 enfants qui sont diagnostiqués chaque année de cancer pédiatrique. Et que ça fait beaucoup. Et que c'est très peu visibilisé. Et elle, elle a eu besoin pendant son parcours scientifique, parce que c'est vrai, une pure scientifique, d'aller plus loin dans son métier, en fait, et de ne pas simplement être dans la recherche, mais aller sensibiliser, aller vers des publics différents, des scolaires, des personnes qui ne sont pas complètement confrontées à ça, en fait, et qui ont aussi du mal à l'entendre, parce que c'est vrai que c'est pas du tout un métier... c'est pas du tout
une problématique facile à regarder.
C'est un tabou, en fait, la maladie des enfants. Et ça touche tout le monde.
La maladie tout court et la maladie des enfants en particulier.
Voilà,
c'est
ça.
Et en même temps, ça touche tellement fort.
C'est ça.
Donc, ton job, c'est de mettre le dessin, finalement, au service de la sensibilisation.
De la sensibilisation. De la compréhension. De la compréhension aussi du métier de chercheur.
Et du métier de chercheur.
Et d'amener à vulgariser, mais de manière... moins scolaire que ce qu'ils font actuellement dans le métier de la recherche, qui est quand même très très flou, hein, pour les moi je me considère comme une moldue, pour ceux qui ont la référence.
Yes.
Et
Harry Potter
complètement. Je me sens vraiment comme une moldue dans ce monde-là, et en même temps je pense que j'apporte une ouverture au monde aussi sur ces récits de chercheurs, sur ces récits de d'anciens patients, de familles qui ont perdu ou sont en train
de perdre
ou en tout cas de combattre la maladie très fortement. Mmh. Et voilà, briser l'isolement de ces familles, c'est important de se dire qu'on est ensemble et qu'on peut les accompagner là-dessus.
Donc ça t'arrive de raconter l'histoire d'un enfant ou d'une famille ?
Je l'ai fait une fois, troisième point de bascule du coup. C'est grâce à mon travail avec l'association que j'ai rencontré une famille qui venait de perdre leur fille de 19 ans, Victoire, que je n'ai du coup pas eu la chance de rencontrer, mais que j'ai rencontré différemment, je pense, et qui m'accompagne depuis. Victoire, c'est une jeune fille qui a eu une maladie très jeune et très très rare, qu'ils ont eu du mal à soigner du coup. Et elle, elle a réussi à raconter son parcours via le dessin et la BD. Et ses parents m'ont contactée parce qu'elle rêvait de faire l'école que j'ai faite, et il n'y a pas de hasard, quoi. Voilà. Et donc j'ai été amenée à voir des mâles et des mâles de dessin qu'elle avait pu faire, soit sur son cancer, soit sur la vie de manière générale. Et tout ce qu'elle avait laissé un peu de côté, j'ai essayé de l'emmener avec moi et de le raconter. Par le biais d'une petite BD, mais j'espère bien en raconter plus. Et voilà, c'est elle qui me porte en ce moment pour me mettre des petits coups de pied des fois aux fesses pour me faire accélérer un peu.
Des petits élans de vie.
Exactement.
Pas des coups de pied aux fesses.
Si, un peu, je pense. Ça fait du bien.
Si tu aimes, je te laisse vivre.
Voilà.
C'est beau. Merci beaucoup. Mmh. C'est très touchant,
très.
Cette histoire. Je me demande du coup si je te pose la question du rêve à l'origine de ton engagement et de ton projet, là.
Je ne sais pas s'il y a un rêve, mais il y a quand même l'idée d'un fil rouge. Quand j'ai rencontré Ludovic pour Entrepreneur de sa vie, je lui ai parlé de ça en lui disant que c'était quelque chose qui venait gratter à la porte régulièrement. Une idée comme ça qui revient et qui n'est pas... qui ne disparaît pas dans la masse, quoi. Et mon idée, c'était de faire le lien entre le dessin et les thérapies, parce que j'ai eu la chance de faire des thérapies assez jeune, finalement.
Je sais pas si tout le monde dirait ça,
d'avoir si, la chance d'avoir fait des thérapies. Je pense que c'était vraiment une chance. En plus, je suis tombée sur vraiment quelqu'un de super. Et que je trouvais que c'était très cloisonné, en fait, que le monde de la psychologie sur... les enfants et le monde du dessin et le monde de la thérapie large, en fait, que tout le monde était un petit peu dans sa case et qu'on n'arrivait pas trop à lier tout ça. Le domaine de l'art-thérapie aussi. Et j'avais dans l'idée, à ce moment-là, de me dire mais ça serait chouette si moi je pouvais, donner des cours de dessin et en même temps avoir un psychologue pas très loin et peut-être une sophro et peut-être une art-thérapeute qui vienne, voilà.
Tellement
interagir, mais dans un même lieu, parce qu'on est tous un peu individuels, tout ça dans notre pratique, et qu'on avait du mal à, voilà. Moi, j'avais du mal à sentir le lien entre toutes ces personnes. Et au départ, voilà, c'était un petit rêve. Et puis après, j'ai rencontré d'autres gens et qui m'ont dit, mais c'est super, et pourquoi tu ferais pas ça? Et du coup, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai un peu ce rêve qui me tient. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'anime dans le fait de, j'ai envie de dire, de l'écosystème local, mais quelque part, tu en parles un petit peu dans ton projet, quoi. Ou de faire partie d'un écosystème local peut-être plus large.
Ouais, ça, je pense que c'est, ça fait vraiment partie de moi. Je suis un être sociable et j'aime le collectif. Je ne me vois pas avancer seule. Déjà, je pense que ça vient questionner un peu la valeur et l'estime de moi, certes, mais c'est que je grandis par les autres. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça me nourrit de rencontrer des personnes complètement différentes de moi. La preuve, je travaille avec des chercheurs qui n'ont pas du tout le même parcours. Et j'adore être dans ces milieux-là. J'adore confronter mes idées, être aussi dans le challenge un peu, parce que j'aime bien dire que je dors sur une idée, par exemple, que je la laisse mûrir. Et souvent, c'est bien
c'est
mieux
fort
de...
à propos.
Oui, voilà. Et c'est souvent ça qui donne des résultats incroyables, en fait. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je me sens le mieux. Le maillage local, ben, c'est là où tu vis, là où tu rencontres des gens qui t'amènent à penser à quelque chose que tu peux créer sur ton territoire et comment toucher plus de monde avec ces gens qui sont déjà soit implantés, soit qui vont l'être.
Donc la richesse de la rencontre individuelle
et collective.
Et l'ouverture à l'ancrage local.
Ouais. Et je pense que j'ai un peu une force là-dessus, c'est de rallier des gens qui n'ont pas forcément
vocation
à être ralliés au départ. Voilà.
Alors Agnès, est-ce que tu es prête à un petit pitch? Pas un petit pitch, un pitch rapide.
Un pitch rapide. Ouais. Ça m'est venu il n'y a pas très longtemps, tu vois, ce titrage. Je pense que ça fait sens avec tout mon parcours jusqu'à maintenant. Il y a l'idée de démocratiser le dessin comme nouvelle forme de langage et pour l'instant dans un cadre thérapeutique. Puisque c'est là où je me trouve actuellement et que j'aime l'idée d'être dans ce cadre-là de la thérapie par le dessin comme nouveau langage possible en fait. Et j'aime le terme de démocratiser parce que j'ai envie que ça touche le plus de monde possible et que ça soit pas cloisonné à des élites parce que le dessin, quoi qu'il arrive, c'est une forme d'élitisme dans la société. Ceux qui font du dessin, c'est qu'ils ont une vie privilégiée avant d'arriver là. Et j'aimerais aller toucher toutes les strates de la population, en fait. Voilà.
Est-ce qu'il y a des grands axes parce que là, pour l'association, mm-hmm. 2500 voix, mm-hmm. on a parlé de sensibilisation, de mm-hmm. vulgarisation et d'un récit de vie.
Ouais.
Comme une biographie.
Exactement, ouais.
Est-ce que tu gardes les mêmes axes?
Je garde ces axes-là dans l'idée de... d'en faire des ateliers, en fait, qui soient accessibles pendant le parcours de soins, du coup, au sein de l'hôpital. J'aimerais réussir à créer des ateliers sous forme un peu d'interaction avec le public, qui puisse vraiment prendre cet outil que je leur donne en main, à leur manière, et que ça fasse un fil conducteur quand ils rentrent aussi chez eux, et qu'ils puissent le continuer à la maison, et qu'il y ait un lien... okay. à faire entre ces deux.
Est-ce que c'est une libération du langage,
ouais.
et non pas de la parole pour le coup,
ouais.
Ou est-ce que c'est faire du dessin à but d'analyse et de thérapie, tu vois, parce que
non. Oui, c'est pas très clair.
Thérapie, je crois que c'est pas clair, c'est qu'il y a différentes possibilités.
Ouais.
Est-ce que tu peux clarifier la tienne, s'il te plaît?
Alors, moi, je ne pense pas à intervenir sur le cadre thérapeutique, sur l'analyse, en tout cas, thérapeutique, parce que ce n'est pas
c'est
mon
ça.
Domaine.
Non.
Et je pense sincèrement qu'il y a des gens qui sont très bien formés pour le faire. Que l'art-thérapie a été une de mes idées à un moment donné, mais que, pour plein de raisons, je ne l'ai pas menée à bien. J'ai trouvé cette pratique incroyable. Néanmoins, moi, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est leur donner les clés de se raconter.
Ok.
Voilà. Donc, être en accompagnatrice de ça et leur permettre, avec mes outils, avec ce que je peux amener comme compétences, qu'ils soient en mesure de se raconter, que ce soit dans le cadre de la maladie, que ce soit en dehors de la maladie aussi.
Je crois qu'on est tous un peu malades quelque part.
Voilà, exactement. Et en fait, souvent, quand ça arrive à des enfants très jeunes, ce qui revient souvent, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux. Mm. C'est très compliqué de leur faire comprendre que ça ne vient pas d'eux-mêmes et que c'est quelque chose qu'on cherche encore. Les causes des cancers des enfants, c'est encore un mystère extrême et on a beaucoup de mal à comprendre d'où ça vient et comment les soigner aussi. Et c'est souvent difficile parce qu'on est face à des enfants qui ont une lucidité extrême sur ce qui leur arrive et sur la maturité qu'ils ont très jeune aussi, sur la vie de manière générale. Et sont amenés à plein de questions et à plein d'envie en fait, de réponses et qu'ils n'ont pas forcément sous la main tout de suite.
Voilà. Et donc même si on fait des bonhommes bâtons, on s'en fout. En fait.
C'est pas la forme qui compte, c'est plutôt le fond.
J'ai presque envie de m'excuser de revenir à ça, mais notre rencontre,
oui.
et le programme, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Même si on fait un tout petit peu dessiner par moment.
Notre rencontre, c'était un peu par hasard au départ, parce que j'ai suivi une amie qui m'a emmenée là-dessus. Et quand je vous ai rencontrée, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut, là, maintenant. Que je me plonge dans ce projet entrepreneurial qui me tient depuis des années. Et que j'arrête de tourner autour du pot et que j'y aille. Ce que ça m'a amené, c'est difficile de synthétiser en quelques mots, mais une connaissance de moi-même beaucoup plus approfondie, déjà, par le biais de plein de choses, hein, plein d'outils, plein de réflexions. Le collectif aussi, parce que par les journées collectives, on approche d'autres parcours, d'autres personnes, d'autres envies, d'autres projets, d'autres étapes aussi. Certains sont plus avancés, certains sont moins avancés, certains se posent des questions, certains... Voilà, et en fait, c'est génial parce que ça permet de se dire qu'on n'est pas tout seul, déjà, à réfléchir. Et ce que ça m'a amené, d'un point de vue personnel aussi, c'est beaucoup plus de recentrage sur ce que je suis, sur ce que je veux être et sur ma manière de traverser les prochaines années. Voilà.
Et ça t'accompagne un peu dans le faire ?
Complètement. C'est vrai que là, je parle beaucoup de... Oui, non, mais si, complètement.
On ne travaille pas que la connaissance de soi.
Non, non, la connaissance de soi, c'est la première étape. Mais non, sur le faire, je pense que sur le début du projet, on a un petit peu tout... Dans un rêve éveillé, je pense. Et qu'au fur et à mesure des journées collectives et de l'accompagnement, on se rend compte aussi de comment rendre ça réel. De s'intégrer dans un territoire, de s'intégrer dans une réalité financière, de savoir aussi comment conjuguer tout ça et que ça devienne concret. Ça peut faire peur, mais c'est ça qui fait du bien aussi. Voilà. De se rendre compte que notre rêve peut devenir réalité.
Et alors, dans 5 ans, comment ça se passe ?
Dans 5 ans, comment ça se passe ? En fait, en réfléchissant à mon projet, et c'est peut-être aussi parce que je suis baignée dans la recherche en ce moment, mais j'aime bien l'idée de faire une thèse sur ça.
Excellent.
C'est nouveau, ouais, ça vient d'arriver. En fait, je pense que j'ai besoin de temps pour le mener à bien, ce projet. J'ai besoin de rencontrer les bonnes personnes, j'ai besoin d'être accompagnée sur ces outils, même si je sais que mes compétences peuvent amener déjà beaucoup de choses, mais j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'un cadre et j'ai besoin de temps pour tester, pour affiner, pour être juste, parce que si je démarre par ce public-là, c'est pas pour rien et c'est aussi pour être la plus juste possible dans ma manière d'amener cet outil-là. Quand on arrive sur... face à ce public. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais en fait, ils sont tellement lucides et matures. On se prend une claque très, très vite, en fait, avec les enfants. C'est incroyable. J'aurais du mal à en parler sans avoir les larmes aux yeux, mais vraiment, il y a des récits de vie que j'ai entendus qui sont... C'est porteur, quoi. Ça donne envie d'être à la hauteur de ce qu'ils sont, quoi. Voilà. Donc, dans 5 ans, il y a un peu cette idée d'avoir eu le temps d'analyser tout ça, point par point, et d'arriver avec quelque chose de solide et d'équilibré.
Super.
Voilà.
S'il te plaît, tu veux bien créer la thèse en dessin?
Je pense que c'est le meilleur média qui me constitue de toute façon.
Et je crois que il y a une dernière chose avant qu'on switch sur le fond, parce que tu as fait une magnifique transition, parce qu'on parle de récit de vie. Les enfants sont encore en bas âge.
Ouais.
Et je crois que le chemin d'entrepreneuriat, c'est aussi un chemin où on doit durer, nous, entrepreneurs, dans le temps. Et du coup, la forme que ça va prendre et le temps, les étapes que ça va prendre, je crois que c'est important. Si tu veux bien témoigner très rapidement de ton parcours, comment... Là, parce que pour l'instant, t'es salarié. Ça prend cette forme-là.
Ouais.
Mais en même temps, c'est un CDD.
C'est un CDD, ouais, pour l'instant. Voilà, parce que il faut savoir que dans le monde de la recherche, les CDI sont extrêmement rares, déjà. Même si je ne suis pas chercheuse, je suis quand même dans ce maillage-là. Donc un CDD, c'est déjà super. Et quelle forme ça...
Ouais. Oui, c'est pour dire en fait que on peut être entrepreneur
en
étant salarié, mais parce que peu importe la forme et le statut juridique finalement.
Je pense que donc effectivement j'ai encore 3 enfants en bas âge qui je pense que c'est encore un peu invisibilisé ça, mais avoir des enfants c'est un travail vraiment à temps plein. Que ça prend une énergie considérable et qu'il ne faut pas la nier. Quoi. Ça, c'est un des premiers basculements dans ma vie, de me rendre compte qu'on ne peut pas éluder ça. On ne peut pas se dire que ça ne nous prend pas du temps et de l'énergie et que ça nous apporte aussi énormément. Mais ça rebalance aussi beaucoup les cartes, parce qu'à un moment donné, il faut aussi subvenir à leurs besoins de ces chers petits. Et effectivement, quand j'ai commencé mon parcours d'entrepreneuriat avec Sonaissance, j'avais dans l'idée de rester freelance. Et à un moment donné, il y a une urgence qui se fait sentir aussi. Et pour l'instant, j'ai du mal à me sentir entrepreneur, je pense. Mais ça va arriver.
Oui, ça, c'est toi, ça.
Ça, c'est moi. Et j'ai besoin de passer aussi par cette stabilité-là pour me libérer un peu l'esprit. Et il y a effectivement la question de la temporalité, il y a ce besoin de ralentir, de pas forcément tout faire tout de suite dès que j'en ai envie, et de rationaliser, voilà, de me dire que j'ai le temps en fait de faire tout ça.
Voilà.
Et j'ai le temps de m'occuper de mes enfants, de prendre le temps d'être avec eux, parce que la partie de la petite enfance, c'est vrai que c'est une partie qui peut être vite épuisante, mais qui est en même temps tellement incroyable, et qui passe extrêmement vite. Et voilà, faut en profiter.
Ça fait partie de du chemin.
Oui, exactement. Et d'autant plus quand on travaille avec des enfants malades. Ça fait sens.
Et pour moi, ton parcours me touche à l'endroit où je vois vraiment ce fil rouge, enfin la partie du dessin et de l'expression qui commence très très tôt dans ton enfance, et aujourd'hui, il y a une forme de conception de ton parcours de vie. Là, tu parles d'une thèse comme un nouvel élément, mais qui est très cohérent avec ce qu'on a vu ensemble dans ce que tu veux mettre en place. Et ton poste actuel, il est extrêmement cohérent dans la suite de ce projet. Et donc, il y a dans ce chemin d'être entrepreneur, cette visée longue au service de ce qui vibre, de ce qui résonne en soi, en l'occurrence en toi. Et je trouve ça très très beau. Courant porteur.
Initiative et résilience d'un territoire. récit de vie. Merci Agnès pour ton témoignage. Et tu mets en dessin, de manière si, si belle, ce que peut apporter le récit de vie au quotidien. Du coup, on a eu envie d'en parler parce que ça fait partie de l'accompagnement. Et au-delà de ça, cette fonction, ou ces multiples fonctions du récit de vie sont tellement importantes pour notre sens et pour notre progression, notre lien à l'histoire. Nous nous racontons en fait tous finalement une histoire de notre histoire. Elle est faite de souvenirs et d'événements marquants et qui ont marqué notre vie. Et souvent, quand on pense au récit de vie, on le réduit à un exercice de ligne de vie professionnelle. Quand on est dans une phase d'évolution, de reconversion, de réorientation, dans les bilans de compétences. Et du coup, cette ligne de vie permet souvent d'établir, de retracer notre carrière pro, professionnelle, et de faire émerger finalement un fil rouge qu'on va raconter dans ce fameux storytelling de notre personal branding, de notre marque personnelle. Je vous ai dit tous les mots-clés. Ce fil rouge qu'on va raconter dans nos lettres de motivation, qu'on va retranscrire dans nos CV, et également qu'on va raconter dans les entretiens, puisque souvent on doit pitcher notre propre parcours à ces endroits-là.
Et l'enjeu, quand on est entrepreneur, il est encore plus grand, parce qu'il y a ce lien avec la cause qui touche la personne qui entreprend, avec les valeurs qu'il souhaite incarner, quoi. On parle dans notre accompagnement souvent du cercle d'or de Simon Sinek qui explique que c'est le pourquoi on le fait, le why, qui donne le sens. Et qui permettent aux clients de venir, finalement, qui vont être touchés par la cause qui touche l'entrepreneur. Et du coup, voilà, ce dernier, il engage son avenir, son argent, ses conditions de vie. Et donc, c'est d'autant plus important de se poser de bonnes questions.
Exactement. Souvent, il y a un lien, c'est ce que j'ai observé dans mes accompagnements. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne des personnes vraiment à titre individuel, en personnel et professionnel, et qu'il y a un lien entre nos premiers choix d'orientation, études et professionnelles, et notre histoire personnelle. Et que ça peut être soit un choix de continuité, on fait comme papa, comme maman, ça peut être aussi une réparation. Je fais ça parce que papa ou maman n'a pas pu le faire, ou un oncle, une tante, enfin, il y a quelque chose, une histoire de famille. Ça peut être aussi une contradiction, surtout pas comme papa ou maman. Et c'est plus rarement une vocation. Et on porte tous, quelque part, un projet parental inconscient, un souvenir, comme un programme de ce que l'on pense que nos parents ou notre famille voulaient pour nous.
Tu voulais dire que j'ai fait ingénieur informaticien comme ma maman, moi ?
C'est possible, Ludo. Tu confirmes ?
Oui, je confirme, mais c'est du passé.
Et moi, j'ai travaillé dans la banque, par sécurité, par équilibre pro-perso. Mais mon papa disait beaucoup que s'il avait continué dans la banque, tout se passerait bien. Hein. Je vous laisse réfléchir de votre côté. Je pense que ça tourne déjà, là. Et donc, dans notre accompagnement, on a intégré cette séquence « ligne de vie ». Mais pas seulement pro. On a vraiment eu cette envie de faire appel à ces notions de récit de vie qu'on va expliquer juste après, hein, en parlant de Paul Ricoeur, du travail de Hannah Arendt et de, évidemment, Boris Cyrulnik, que vous commencez à savoir que c'est un de mes chouchous, comme tu dis, Ludo. Déjà pour décrire l'exercice et puis raconter cette histoire, comment ce récit de vie... est arrivé en tant que concept et est-ce que cela permet
l'exercice, on peut le décrire assez simplement et voilà, la consigne est donnée, c'est de tracer une ligne de vie voilà, sur papier ou sur ordinateur en fonction de la personne, de son envie, et de donner, de mettre date par date, événement par événement, tout ce qui a lieu, à lien. Alors évidemment, aux professionnels, aux études qui ont été faites, etc. Mais aussi, évidemment, sur le plan personnel, affectif, familial, dans quel lieu on a habité, quels ont été peut-être des voyages, petits ou grands, quelles ont été nos passions, et aussi les gros événements qui peuvent aussi toucher au traumatisme psychocorporel, d'avoir un peu ces gros événements. En tant que lien aux personnes qui nous entourent, hein, en tant que parents, en tant qu'aidants, évidemment, ça c'est des choses qui viennent bouger, qui viennent façonner cette ligne de vie.
Et je l'ajoute quand même parce que on autorise aussi à ça. Il y a plein de personnes qui ont aussi des expériences un peu extrasensorielles. Et cette ligne de vie qui mêle ces différentes, c'est comme une trame en fait, qui se joint avec ces lignes qui se rejoignent. Pour nous, c'est vraiment important de réunifier toutes ces parts-là. Cette mise en lien, elle permet de retisser l'histoire de la personne, de réintégrer effectivement toutes les parts d'elle-même, de les remettre aussi dans la bonne chronologie, tout simplement. Parce qu'on fait rarement cet exercice de mettre noir sur blanc comment se sont passées les choses et on se raconte vraiment des histoires. Ça permet de se remémorer et aussi de se raconter. Ça permet de remettre en conscience aussi les différents événements. C'est l'occasion de les remettre en perspective. Ça réunifie, ça recolle l'histoire au présent. C'est comme un peu si on récupérait nos lignées, notre passé, pour le raccrocher à ce qu'on vit là maintenant. Pour mieux préparer l'avenir. Ça permet aussi de le réécrire, se raconter une nouvelle histoire de cette histoire, la raconter autrement. Cyril Nick, mais c'est pas le seul, hein, dit que quelque part on invente nos souvenirs parce qu'on y met un de l'émotionnel et du coup, c'est pas que le factuel du tout. Et on lui donne un sens plus ou moins positif. Et on peut, au regard de notre maturité d'aujourd'hui, porter un regard différent sur ces événements et se proposer à vivre des alternatives pour maintenant, pour le présent et pour le futur, en fait. Comment on a envie de mettre en récit pour l'avenir et dans notre projet personnel, familial, entrepreneurial, cette histoire de vie ? En résumé, ce qu'on veut dire, c'est ça permet de recoller au sens. Ça contribue à la résilience. En professionnel, ça permet de mettre plus de contenu sur le sens et la cause auquel on veut répondre dans notre projet entrepreneurial et ce qu'on porte en tant que personnel dans ce projet. Ça donne de l'assise, ça permet de mettre de la valeur aussi, de faire émerger des compétences acquises qu'on travaillera ensuite. Et de prendre des décisions aussi sur comment on a envie de vivre les relations, qu'est-ce qui est le plus adapté à la personne que l'on est aujourd'hui. On peut dire aussi...
Oui, ça fait ressortir, et c'est une de mes pépites souvent, moi, quand j'accompagne cette séquence-là, de voir les schémas répétitifs qui se dessinent, et la prendre conscience, c'est le premier pas pour pouvoir en sortir et créer du réellement nouveau. Et donc, ça, voilà, et envisager effectivement des voies de sortie, quoi.
Oui, voire démarrer et même continuer à étayer avec un soutien psychologique sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Nous, on aime bien travailler avec l'intelligence relationnelle de François Ledoz, un continuum de la conscience qui décrit les états dérégulés. Là où il y a du figement, de la dissociation, et comment on peut prendre la main. Hein, et si ce programme s'appelle Entrepreneur de sa vie, c'est aussi parce qu'il y a cette fonction d'observateur et cette capacité à passer l'action et à créer des alternatives de fonctionnement qu'on va expérimenter et porter dans le réel, dans le concret, dans un projet professionnel. Ça permet aussi de faire émerger, parce qu'on a tous une philosophie de vie et une spiritualité. Et souvent, quand on fait ces exercices, il y a des maximes de vie qui apparaissent, des petites phrases qu'on se dit et qui sont comme finalement des directions et des lignes de conduite qu'on a et qu'on a décidé à un moment donné, par des expériences plus ou moins conscientes ou inconscientes, et qu'il est important de revisiter.
Peut-être que notre invité peut témoigner, puisque on a vu ça tous les deux, Agnès.
Oui.
Comment tu as vécu ce moment-là de l'accompagnement entrepreneur de sa vie?
C'est un exercice qui arrive au début, sur la partie de la connaissance de soi. C'était très apprenant. Je pense qu'il y avait... Il y avait des choses que j'avais conscientisées, parce que j'avais quand même travaillé sur certaines étapes de ma vie qui ont pu être traumatisantes, et sur le besoin de les cadrer, justement, pour pas qu'elles deviennent trop envahissantes. Mais ce que ça m'a vraiment amené, je pense que c'est c'est important de se rendre compte de tout ce qu'on a fait dans sa vie, en fait, jusqu'à présent, quoi. C'est important de se rappeler par où on est passé et jusqu'où on est arrivé, que ce soit conscient ou inconscient, qu'on ait réussi à contrôler certaines périodes ou pas. Mais en fait, c'est quand même important de des fois se retourner, de se dire « Ok, j'en suis là, c'est pas pour rien, il y a eu telle et telle étape ». Et en fait, je peux être quand même assez fière de ce qui s'est passé jusque-là, quoi.
Voilà. Fière et forte de ça.
Exactement.
Oui.
Voilà. Et ça permet aussi, je ne vais pas dire de guérir, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a clore certains chapitres. Mmh. Voilà.
Le faire avec un référent. Ça a ouvert d'autres choses.
Ouais, ça challenge quand même, parce que c'est important de... Je vais pas dire qu'on a tendance à éluder certaines parties de nos vies, mais un peu quand même.
Léger.
C'est pas simple, parce qu'on se dévoile quand même beaucoup par cet exercice-là. J'avais pleine confiance en Ludo, mais c'est quand même complexe, parce que on vient toucher des zones de soi qu'on doit dévoiler, quoi. Et c'est au-delà de la confiance, c'est quand même un peu se mettre à nu.
Quand tu dis qu'on doit, j'imagine bien que tu étais pleinement consentante et libre de le faire.
Complètement. C'était pas un devoir de type.
Je préfère
de type obligation.
Clarifier ce point-là.
Non, mais disons que si on veut aller au fond de l'exercice, il faut.
T'avais envie de le faire.
Il faut jouer le jeu. Ouais, et c'est vrai que la première version, elle n'a rien à voir avec la dernière, il y a quand même un truc de réparer. De clore pour ouvrir d'autres chapitres.
Parce que on a des témoignages qui disent que faire cet exercice avec un référent permet d'être accueilli dans tout ce que l'on est et de l'intégrer dans sa manière d'être à venir.
Ouais, c'est très touchant, ça. C'est vrai. C'est être accueilli comme on est, en fait, vraiment. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de réorientation du propos sur un cadre professionnel. Enfin, c'est très différent de tout le travail que j'ai pu faire, que ce soit thérapeutique ou même scolaire, etc. Donc en fait, non, il y a se mettre à nu, mais du coup il y a une confiance mutuelle qui se crée, et c'est agréable de se montrer aussi tel qu'on est, quoi.
Et pour le référent, ça permet réellement de pouvoir tenir compte de l'entièreté de la personne dans la suite de l'accompagnement. Et c'est souvent, en tout cas ça arrive qu'il y ait des prises de conscience, alors de moi mais aussi de la personne, il dit, mais en fait attends, là ton rêve là, tu l'as touché à cet endroit là, mais tu l'as mis de côté, où est-ce qu'il en est, et qui permet vraiment d'enrichir ou de rendre plus résonant ou de là aussi concevoir un projet avec peut-être plusieurs étapes pour dire oui mais ça je l'avais laissé de côté parce que vie familiale, etc. Mais autorise-toi, quoi. Et donc, ça permet vraiment de donner une suite du récit.
ce qui n'a pas été le cas pour moi parce que j'étais complètement sûre de moi avec une valeur de moi-même extrême. Donc,
Pardon.
Voilà. Mais pour d'autres, oui, certainement.
Ok, c'est super intéressant. Et le temps file, Ludo me rappelle à l'ordre. Ouais, j'aurais aimé dire aussi qu'il y avait un renforcement qui est apporté par l'effet tribu, l'effet collectif dont tu as parlé. Donc, je vais pas te redonner la parole. Hein. Néanmoins, ça réassure la personne dans sa capacité à faire, donc sa confiance en soi et sa valeur. Et ça rend possible, voilà. Ouais. Et donc, du coup, ça vient toucher, pareil, dans cette définition de la santé que j'aime beaucoup de l'OMS qui parle de physique, psychologique et sociale. Ça permet aussi d'être accepté dans un groupe. Pour l'acceptation dans la société. Ça fait comme un cocon. L'histoire alors, du récit de vie, très rapidement, j'ai choisi de parler d'abord de Paul Ricoeur, qui dit que la connaissance de soi est de l'ordre d'une interprétation, et que cette interprétation, c'est une forme de récit. Et ce récit, il se définit à la fois par un récit historique, mais aussi du fictionnel, quelque chose qui est de l'ordre de la fiction. Et donc, le récit de soi, c'est la rencontre entre finalement, histoire et imagination. On parle aussi d'émotionnel, etc. Et Hannah Arendt, qui est aussi une des grandes chercheuses qui en a parlé, dit que la mise en récit transforme la matière de l'existence en histoire, c'est-à-dire en un tout cohérent et signifiant, et donc qui donne du sens. Comme quoi, cette recherche du sens, elle n'est pas toute nouvelle, elle est vraiment inhérente, finalement, à chacun de nous, qu'on le dise comme ça ou pas. Il y a un fil rouge dans notre histoire, il y a une histoire qu'on se raconte, et l'écrire, ou l'exprimer, ou la dessiner, peut permettre effectivement de faire émerger du sens et de donner la main. Le souvenir est la condition du récit de soi-même. Et c'est une répétition dans notre imagination, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on remémore, on change finalement un peu le souvenir. Il permet de dégager le sens du passé et fait du récit un accomplissement de l'existence, c'est-à-dire que c'est seulement quand on peut imaginer ce qui de toute façon est arrivé, de le répéter en imagination, qu'alors on verra les histoires, on parlait de fil rouge, hein, et seulement si on a la patience de les raconter et de les re-raconter. Faculté d'imagination, donc. Ici, il s'agit de distinguer ce qui est de l'ordre de la fabulation, mais dans le bon sens du terme, hein, de l'imagination, aussi bien que... et qui n'est pas de la fantaisie imaginative. C'est pas de la rêverie. On est loin d'être... Dans l'irrationnel. C'est plutôt une forme de compréhension qui est résolument tournée vers le réel et comme une boussole qui va en permettre la lecture. Sans l'accompagnement du langage, l'action se perdrait. Donc, quelque part, on a besoin de ce récit de vie pour donner du sens et il décide l'action. Et cette fonction fondamentale que développe plus tard Boris Cyrulnik, il en fait une condition de résilience, le fait de ce récit de vie. Il affirme que, tout comme Ricoeur et Arendt, que l'identité humaine est essentiellement narrative et que c'est en vertu de cette narrativité qu'il prête au récit de soi une fonction thérapeutique. Le processus de résilience se constitue précisément par cette mise en récit du trauma, mais c'est pas seulement des traumas, mais également de tout ce qui peut être perçu comme manquant. Parce que souvent, on fait des focus résilience, on a vécu des traumas, etc., réparation, et il y a fonction thérapeutique. Mais tout un chacun, on a cette histoire-là, on s'est constitué des maximes de vie et des programmes automatiques, et il y a une vertu thérapeutique, comme tu l'as très très bien exprimé, Agnès, dans le récit de vie. Donc c'est comme une autobiographie, et dans toute autobiographie, il y a un remaniement imaginaire. Et quand on passe par l'écriture, ou le fait de tracer, en fait, on dit que au début était le verbe, donc le fait de le raconter à l'oral a déjà cette vertu de le mettre en conscience et de pouvoir le remanier. Mais l'écrire ou le dessiner, c'est comme une alchimie qui transforme notre passé en œuvre d'art participe à la reconstruction d'un moi délabré et permet de se faire reconnaître par sa société.
Rien que ça.
J'aime beaucoup cette phrase. Donc cette vertu thérapeutique du récit de vie, sa capacité à reconstituer un moi brisé ou simplement marqué par le manque, est un enjeu primordial de l'écriture autobiographique. Et Cyrulnik perçoit cette dimension qu'il dit rédemptrice dans ses récits de vie où s'exprime le manque, la perte, etc. Terminé par ses fonctions d'extraction du sens et de la réconciliation qu'ont les récits de vie, c'est la dimension éthique. Parce que ça dresse un bilan, ça permet de faire les comptes et de rendre compte, suivant les métaphores donc, que Ricoeur aborde, en termes de responsabilité. Il y a comme une prise de responsabilité rétrospective de ce que l'on a vécu quand on fait son récit de vie. Il y a comme tu disais, régler ses comptes avec le passé quelque part, et qui imprime à l'existence une unité et un fil directeur. Et juste, Paul Ricoeur amène la notion de souci, qui est une tension vers un avenir et l'expression de projet. Et c'est là où vraiment ça prend tout son sens pour décrire et écrire la suite de sa vie, décider de la suite de sa vie. C'est un examen de soi-même qui confère à la vie racontée une qualification éthique, dit Paul Ricoeur, qui passe notamment par les médiations dont nous avons parlé, donc culturelles, qui dictent des plans de vie. Médiation, parole, écriture, dessin. Vous retrouverez, comme d'habitude, tous les éléments en référence dans la page courant porteur archive dans le site de Kalama Radio.
Et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission.
Et de nouvelles aventures.
Absolument. Merci Elisabeth.
Merci Ludo, merci Agnès.
Merci Agnès. À tous
et merci à tous les auditrices et tous les auditeurs.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr. SAONE2SENCE.